accent d'Europe, Alexis Bédu.
Vote for we, lad, God vote for we, hey, vote for we, could the people vote for we, put down the mic.
Bonjour à tous. Brexit or not Brexit? Les élections législatives de ce jeudi au Royaume-Uni sont déterminantes. Le leader du parti conservateur Boris Johnson a promis une sortie de l'Union européenne d'ici le 31 janvier si son camp obtient la majorité et s'il est maintenu à son poste de Premier ministre. 3 ans après la victoire du Leave au référendum, la saga Brexit n'en finit plus. Marie Billon a tendu son micro à plusieurs électeurs à la sortie des isoloirs et notamment à cette supportrice de Boris Johnson.
Je pense que c'est le seul candidat actuellement qui pourra respecter le résultat du référendum. Moi, j'avais voté Remain, mais il faut respecter le référendum, sinon la démocratie n'aura pas de valeur. J'aime l'écouter parce qu'il est, il blague beaucoup. Oui, et puis ça me fait rire, au fait.
J'ai voté travailliste parce que je ne pourrai jamais voter pour Boris Johnson et les conservateurs. J'aime le programme socialiste, l'État-providence qu'il propose, le fait qu'ils veulent s'occuper des gens normaux, de la classe ouvrière, ça me plaît. Je trouve que Jeremy Corbyn devrait être plus costaud, mais je vote pour des idées, pas pour une célébrité. Sur le Brexit, c'est bien de vouloir redemander leur avis aux Britanniques parce qu'on nous a beaucoup menti.
Pour qui j'ai voté, ça n'en garde personne. Je ne fais confiance à aucun politique. Même le Parti travailliste me fait très peur. Je vais vous dire, j'ai 66 ans, j'ai vu la politique changer tellement dans ce pays, ils me font tous honte.
C'était un choix très difficile parce que j'ai l'impression qu'aucun politique ne s'intéresse vraiment à la nation. Ils ne pensent qu'à eux. Ça a été plus compliqué cette année que les autres fois. On ne sait pas quoi faire après le Brexit. La question du Brexit et de l'égalité étaient mes priorités. Mais j'ai voté vert parce que je n'arrivais pas à choisir entre les deux principaux partis. Donc j'ai décidé de donner ma voix à la planète.
On a Belfast street, there lived a boy who had the world at his feet. A doctor, a lawyer, a fisherman too. Even a policeman, this could be true. These things.
On vote également en Irlande du Nord pour ce scrutin. Cette petite province du Royaume-Uni ne représente que 18 des 650 sièges de Westminster, mais ce sont des votes cruciaux qui ont pour l'instant bloqué toute majorité. Pour les Nord-Irlandais, ce qui se joue ce jeudi va au-delà du Brexit. Il s'agit aussi beaucoup de politique intérieure, car les institutions nord-irlandaises sont paralysées. Reportage et explication d'Emeline Vin.
Les Halles Saint-Georges de Belfast accueillent un marché très chic, avec légumes bio, dégustation d'huîtres et artisanat local. Dans les allées, les visiteurs préfèrent penser au shopping de Noël. Quand on prononce le mot « élection », Linda pousse un profond soupir.
Ça devrait être une élection sur le Brexit, mais parce qu'on est l'Irlande du Nord, ça ne l'est pas. On en revient toujours au orange contre les verts, malheureusement.
Orange, la couleur des unionistes britanniques, et vert, celle des nationalistes irlandais. D'ailleurs, l'Irlande du Nord a ses propres partis. Aucun candidat ne représente les conservateurs de Boris Johnson ou les travaillistes de Jeremy Corbyn. Linda a beau avoir voté Remain en 2016, elle espère que cette élection va enfin permettre d'aboutir au Brexit.
J'en ai ras-le-bol vraiment de ne pas savoir. Boris Johnson a déclaré qu'il n'y aurait pas de contrôle douanier entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Et on vient d'apprendre qu'il y en aurait peut-être. Déjà, d'habitude, je n'aime pas la politique. Mais alors, avec le Brexit, par-dessus le marché, c'est encore pire.
Et puis on a besoin que notre assemblée revienne.
Celle qui lui coupe la parole, c'est son amie Angela. Cabas à la main, elle aussi en a ras-le-bol des responsables politiques. Le Parlement d'Irlande du Nord ne siège plus depuis bientôt 3 ans.
Il faut que nos politiques reviennent et fassent ce qu'ils ont à faire. Notre système de santé tombe en lambeaux. Il faut que nos responsables se bougent le derrière et se remettent au travail. Ils sont payés pour ça. Et sinon que Londres reprenne la main, comme ça aurait dû être le cas depuis plusieurs années. Tout est en suspens, ce n'est pas juste.
À l'origine du blocage, un désaccord sur le statut de la langue irlandaise entre les deux principaux partis, le DUP, unioniste radical, et le Sinn Féin, nationaliste radical, lui aussi. Pour Angela, ce vote est un moyen de sanctionner les deux formations, à commencer par le DUP.
Je suis à l'opposé de Linda. J'ai voté Leave et je vote unioniste.
Mais on est quand même de très bonnes copines.
On ne comprend pas pourquoi tout est à l'arrêt, pourquoi le DUP bloque tout. Ils sont mesquins au sujet de la langue irlandaise. Ils essaient de faire en sorte que les unionistes restent britanniques. Mais les temps changent. On est sur l'île d'Irlande après tout. Donc oui, je pense qu'ils vont se prendre une claque cette fois.
Pour tenter de rester le principal parti d'Irlande du Nord à Westminster, le DUP tente de se placer comme la seule formation pro-Brexit qui défendra les intérêts de la région. Malgré leurs convictions politiques divergentes, les deux copines s'accordent sur une chose.
C'est tellement compliqué, c'est le pays le plus compliqué du monde, je crois.
Son amie Linda arbore un grand sourire. Pour une fois, Angela donne sa voix à un candidat unioniste mais indépendant, et donc sur une ligne moins radicale que le DUP. C'est toujours orange, admet Linda, mais un petit peu plus clair.
Quel est le point commun entre Boris Johnson, Jacques Chirac et Recep Tayyip Erdogan ? Eh bien, ils ont tous été maires avant de diriger leur pays. C'est justement à cette fonction de premier édile que nous nous intéressons aujourd'hui. En République tchèque, tout d'abord. Le maire de Prague n'est pas sur la même ligne que le gouvernement du pays. Ses prises de position, notamment concernant la politique internationale, l'ont récemment amené à se rapprocher des maires des capitales voisines, Bratislava, Budapest et Varsovie. Un pacte sera même signé lundi prochain. L'objectif, faire face à leurs gouvernements respectifs. Les précisions d'Alexis Rosenzweig.
Une alliance de maires progressistes dans une région souvent décrite comme le berceau de l'illibéralisme. On la surnomme déjà le Petit Visegrad, en référence au groupe de Visegrad formé par leurs quatre pays respectifs. Zdeněk Hřib, le maire de Prague, au nom difficilement prononçable, s'est en effet récemment rapproché des maires de Bratislava, de Varsovie et de Budapest pour tenter de faire contrepoids à des gouvernements qui donnent souvent à cette région d'Europe centrale une image tantôt nationaliste, tantôt ultra-conservatrice, voire une image de mouton noir de l'Union européenne sur des sujets comme l'immigration ou l'environnement. Pour le maire pirate de la capitale tchèque, les enjeux sont de taille et les conséquences géopolitiques potentiellement importantes. En témoignent les derniers épisodes en date du feuilleton tchéco-chinois, avec la rupture du partenariat entre Prague et Pékin. Le régime chinois supportant très mal les relations entretenues par Zdeněk Hřib avec le gouvernement tibétain en exil et avec les autorités taïwanaises. En un an depuis son élection, ce médecin de formation âgé de 38 ans a réussi à se mettre à dos le chef de l'État pro-chinois Miloš Zeman et le chef du gouvernement, le milliardaire Andrej Babiš, que le parti pirate somme de démissionner en raison de ses conflits d'intérêts récemment confirmés par la Commission européenne, car son gouvernement redistribue des fonds européens aux entreprises de l'empire agro-industriel qu'il a lui-même fondé. Le maire de Prague était d'ailleurs de passage la semaine dernière à Bruxelles, où il en a profité pour discuter des affaires du Premier ministre tchèque et de leurs conséquences sur les futures subventions européennes allouées à la Tchéquie. Un thème également cher au maire de Budapest, où le Premier ministre Viktor Orban doit rembourser de l'argent européen mal redistribué. Le maire de Varsovie veut également négocier directement avec Bruxelles sans passer par le parti PIS au pouvoir et en porte-à-faux avec les institutions européennes. Le problème pour le maire de la capitale tchèque ainsi que pour ses homologues des pays voisins est que, comme souvent, les électorats des capitales restent en général une minorité à l'échelle nationale.
Et au sein de ce petit Visegrad, le maire de Varsovie qui vit lui aussi un calvaire. En Pologne, les relations entre les grandes villes et le gouvernement central sont de plus en plus tendues. Les ultra-conservateurs au pouvoir votent leurs réformes, très coûteuses, et ils transfèrent la responsabilité de leur mise en place aux grandes villes, mais sans donner l'argent qui va avec. Cela ressemble à une vengeance politique. Ces grandes villes sont pour l'essentiel dirigées par l'opposition. Résultat, Varsovie, Cracovie ou Poznan sont en difficulté financière et doivent renoncer à certains projets. Thomas Giraudot.
En supprimant le collège en septembre dernier et en rallongeant l'école primaire et le lycée, le gouvernement polonais a créé un véritable chaos dans l'éducation nationale, mais aussi dans les caisses des villes et villages. En Pologne, contrairement à la France, les mairies gèrent tous les établissements scolaires, de la maternelle jusqu'au lycée. Partout dans le pays et surtout dans les grandes villes, elles ont donc dû dépenser au total plus d'1 milliard d'euros en travaux pour agrandir les écoles primaires et lycées, afin qu'elles puissent accueillir tous les nouveaux élèves. Des dépenses pas toujours remboursées par le gouvernement, tout comme l'augmentation des salaires des enseignants pas entièrement compensés. Autre dépense supplémentaire, l'allocation familiale universelle 500+, mesure phare du gouvernement. 500 zloty, environ 115 euros par mois pour chaque enfant. 500+ est versé dès le premier enfant depuis ce printemps. Les grandes villes et les régions sont chargées de sa distribution, mais c'est de l'État que doit venir l'argent, et celui-ci ne donne pas tous les zloty nécessaires. Et puis les recettes se raréfient. Le parti au pouvoir, le PiS, a baissé les impôts sur le revenu et les a même carrément supprimés pour les moins de 26 ans. La capitale, Varsovie, perd ainsi 200 millions d'euros par an. Elle a dû renoncer à la création d'une rocade à l'est de la ville. À Poznan, c'est le remboursement de la fécondation in vitro qui est arrêté, faute de moyens financiers. Cracovie, elle, baisse son budget alloué à la propreté et à l'entretien des routes. Pour faire rentrer un peu d'argent dans la caisse, début 2020, plusieurs villes vont augmenter drastiquement les tarifs des crèches ou la taxe d'ordures ménagères.
En France, les élections municipales, c'est dans 3 mois. Les Français sont appelés à renouveler leurs 34 700 conseils municipaux. Et avant cette élection, un phénomène inédit, de nombreux maires sortants n'ont pas l'intention de se représenter. Trop de soucis, trop de responsabilités et en même temps, un pouvoir de décision qui leur échappe de plus en plus. Alors nos maires sont-ils les seuls dans cette situation en Europe? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Alexis.
Alors déjà, il y a près de 35 000 maires en France. C'est un nombre important. Est-ce une exception en Europe?
Tout à fait, Alexis. Pour ne parler que de nos voisins d'Europe occidentale, un pareil nombre de communes ne se retrouve nulle part. Il n'y en a que 11 000 en Allemagne, environ 8 000 en Italie et en Espagne, moins de 600 en Belgique, moins de 400 aux Pays-Bas. Sans parler des Suédois et des Danois qui ont opéré ces dernières décennies un regroupement spectaculaire de leurs communes pour n'en conserver que 290 en Suède et 98 au Danemark. Un pays où la taille moyenne d'une commune est de 57 000 habitants contre moins de 2000 en France.
Mais retrouve-t-on le même système de maires partout?
Presque partout, même si on les appelle bourgmestres en Allemagne, en Belgique et dans le nord de l'Europe, sindaco en Italie ou alcalde en Espagne. Mais deux grands pays n'ont pas un système unifié comme en France. En Allemagne, par exemple, la plupart des maires sont élus désormais directement par la population et détiennent de ce fait plus de pouvoir que d'autres maires élus par le conseil municipal. En outre, selon les Länder, la durée des mandats varie de 6 à 8, voire 9 ans, alors que les conseillers municipaux sont souvent élus pour 5 ans, les mandats de maire et de conseiller étant ainsi déconnectés. Au Royaume-Uni, la situation est encore plus singulière et particulièrement confuse. Il existe plusieurs types de maires de villes, de cités, de districts, d'arrondissements qui n'ont ni les mêmes pouvoirs, ni le même mode de désignation. Ainsi, Londres compte 2 maires, le Lord Mayor qui étend sa juridiction honorifique sur la City et le maire effectif qui dirige l'ensemble du Grand Londres.
Daniel, les fonctions de tous ces édiles sont-elles les mêmes, sont-elles comparables ?
Plus ou moins. Une distinction doit être faite selon la nature de leur pouvoir. En France, elle est double puisque le maire est à la fois représentant de l'État et chef d'une collectivité locale décentralisée. Cette double casquette ne se retrouve que dans deux pays conquis il y a 2 siècles par la France napoléonienne qui a imposé le modèle administratif français. Il s'agit de la Belgique et de l'Italie. Partout ailleurs, le maire et le conseil municipal ou communal n'ont que la seule responsabilité de diriger l'administration locale. Mais cette tâche peut être très lourde, notamment dans les pays où les communes ont été regroupées. Ainsi, au Danemark, la commune est responsable, comme en France, de la gestion des écoles primaires, de l'entretien des routes locales, de la gestion de l'eau, des déchets, mais elle a aussi en charge tous les services sociaux, la médecine psychiatrique et infantile, l'environnement, l'emploi.
Et l'élection directe des maires est-elle répandue ?
Comme en France, les maires sont élus ou désignés par le conseil municipal dans plusieurs pays. C'est le cas dans certaines régions d'Allemagne, dans la plupart des communes flamandes de Belgique, en Suède, au Danemark et en Espagne. En revanche, l'élection directe du maire au suffrage universel domine outre-Rhin depuis les années 90. Elle est généralisée en Wallonie belge, elle s'est répandue en Angleterre pour les grandes villes et elle est la règle en Italie depuis 1993. Notons qu'aux Pays-Bas, les bourgmestres sont nommés pour 6 ans par décret de la couronne sur proposition des conseils municipaux.
Quant à la fréquence des élections municipales, elles sont identiques ?
Non, on sait qu'en France, ces élections ont lieu tous les 6 ans. Cette durée plutôt longue est également appliquée en Belgique. En Allemagne, la durée varie selon les Länder entre 4 et 6 ans. En Italie, les municipales ont lieu tous les 5 ans. Dans les autres pays, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Scandinavie, les conseils municipaux sont renouvelés tous les 4 ans.
Et qu'en est-il de la rémunération des maires ?
Tout d'abord, il arrive que les maires ne soient pas rémunérés, mais simplement défrayés dans les petites communes espagnoles ou allemandes, par exemple. Sinon, la rémunération évolue généralement en fonction de la population de la ville. C'est le cas en France, où le maire d'une commune de moins de 500 habitants touchera 658 euros bruts, tandis que celui d'une ville de plus de 100 000 habitants recevra 5 640 euros. Ces différences sont inférieures aux rémunérations perçues chez nos voisins. En Belgique, les maires perçoivent ainsi au moins 1 600 euros par mois. En Espagne, pas moins de 2 500 euros. En Allemagne, le maire d'une agglomération de 10 000 habitants touchera environ 7 000 euros contre 2 500 euros seulement en France. Quant au Danemark, où il est vrai les communes sont vastes, les rétributions tournent autour de 7 à 8 000 euros mensuels.
Et comparé à certains pays voisins, les maires français sont donc moins bien lotis.
Oui, aussi bien sur un plan salarial que sur les modalités d'exercice, voire de l'intérêt du mandat. Cela pose le problème de la viabilité de toutes ces micro-administrations que constituent la plupart des communes dans l'Hexagone.
Merci Daniel pour ces explications. Plus d'un quart des maires ne se représenteraient pas en mars prochain. Résultat d'une enquête du Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Ce ras-le-bol des maires, André Léniel le connaît bien. Il est maire socialiste d'Issoudun dans le centre de la France depuis 42 ans. Il est également vice-président de l'Assemblée des maires de France. Nous l'avons rencontré lors d'un reportage. La fonction de maire en ruralité est de plus en plus difficile car les services publics ont disparu. Alors première question, y a-t-il eu un abandon des habitants des campagnes ?
De la part de l'État, c'est incontestable. Il suffit de voir tous les services publics qui ont été fermés sur les 25 dernières années. Je ne vais pas cibler l'actuel gouvernement, il en fait d'ailleurs plutôt des louches par rapport au précédent dans le mauvais sens. Mais ça a déjà commencé depuis 25 à 30 ans. Et c'est vrai que la fermeture des services publics, j'évoquais la fermeture de mon commissariat de police, j'évoquais la fermeture de mon palais de justice, je pourrais évoquer la fermeture de la Banque de France, je peux multiplier ce qui a été supprimé depuis 20-25 ans dans une petite ville comme la mienne. Et en campagne, c'est encore pire. Ce sont les bureaux de poste qui ont disparu. Ce sont souvent les écoles elles-mêmes qui ont disparu. Donc, il y a une absence d'aménagement du territoire depuis quasiment 30 ans.
Et les révoltes actuelles en France, je pense principalement à celles des Gilets jaunes, sont-elles liées à cela ?
Bien entendu, il y a tout ça, un sentiment de délaissement. Un sentiment que l'actuel pouvoir et surtout le président sont dans une démarche, j'allais dire, orgueilleuse à l'égard du petit peuple. On nous parlait de Nouveau Monde et en réalité, nous avons aujourd'hui l'Ancien Régime, où il y a les nobles et les autres. Mais ce sentiment, il est aussi celui des maires de France, dans leur immense majorité. C'est-à-dire un sentiment de mépris à l'égard du peuple et à l'égard des maires de France, qui sont les premiers représentants du peuple dans un pays comme le nôtre, dans une république comme la nôtre. Et je crois que c'est ce sentiment de mépris, ce sentiment de délaissement, qui est le ferment de la colère, non seulement des Gilets jaunes, mais au-delà des Gilets jaunes, de tous ceux qui se reconnaissent dans leur lutte, même s'ils n'approuvent pas forcément les formes que prennent ces luttes, et tous ceux qui se reconnaissent dans leurs maires, parce que les maires, c'est le symbole de la proximité et de la vraie démocratie.
André Léniel, vice-président de l'Assemblée des maires de France au micro d'Accent d'Europe. Accent d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Une émission réalisée par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur RFI.fr, rubrique podcast Accent d'Europe. Il y a aussi notre page Facebook pour réécouter et partager l'émission. Merci et à demain.